Voilà, c'est tout, c'est fait. Voilà, il était dévissé, maintenant je peux le trafiquer dans tous les sens, ça fait plus de bruit, c'est magnifique, merci beaucoup. Il fallait juste que je relève un peu le micro pour qu'il convienne à ma grande taille. Très heureux d'être avec vous ce matin, merci d'accueillir encore une fois, portes ouvertes. C'est toujours un honneur et un privilège pour nous en tant que mission d'être accueillis dans les églises ici en Suisse romande et ailleurs sur la planète, mais ça ne me concerne pas. Et Dieu merci, la Suisse romande a l'air toute petite, mais elle est déjà bien assez grande pour s'y promener de long en large le dimanche. Cossonay, c'est très près de chez moi, alors c'était facile, hein, en 20 minutes, je suis avec vous. C'est magnifique. Porrentruy, c'est un peu plus loin, Genève, la semaine prochaine. Voilà, on y circule très bien le dimanche, donc aucune plainte. On voit le jet d'eau voilà, à ravir en 1 heure de route. Bref, Genève est presque à la porte. Portes ouvertes, donc, c'est une mission qui se plaît à mobiliser les chrétiens, ici en Suisse romande, pour le bien de celles et ceux qui souffrent. Et avant d'entamer le programme Portes ouvertes et de parler de l'Afrique subsaharienne ce matin et du Burkina Faso en particulier, j'aimerais ouvrir la Bible avec vous, si vous êtes d'accord, d'écouter la parole de Dieu. Peut-être vous surprendra-t-elle cette parole. J'ai intitulé le titre de ce message « Faire ce que dit la parole ». Parce qu'on l'écoute volontiers, la mettant en pratique. Vous verrez, le texte nous chatouille un peu, mais c'est à dessein puisque les temps avancent. Peut-être le Seigneur est-il à la porte. Quand on écoute les rabbins, les juifs orthodoxes aujourd'hui prêcher ou enseigner, ils vous disent « Le Messie, c'est demain ». Si l'Iran attaque, Israël répond, le Messie est à la porte, il va se révéler. Ils sont dans cette quête, cette soif, cette attente messianique très forte, très palpable. Et nous autres, chrétiens évangéliques convaincus d'appartenir au Messie, sommes-nous aussi à la fête? Bien qu'on sache que des jours de deuil ou de lamentation pour Israël, en tous les cas, pourraient survenir, sommes-nous en quête? Sommes-nous à la fête? D'accueillir bientôt peut-être le Messie qui revient. Alors nous ne sommes pas prophètes, n'est-ce pas? Il se pourrait que ce soit demain, il se pourrait que ce soit dans 1000 ans. Sommes-nous pour autant attentifs aux temps qui viennent? Les discernons-nous et sommes-nous de ceux qui se préparent et qui font le job? Faire ce que dit la parole. Je vous engage à lire le texte qui est ici à l'écran, Matthieu 25, 31 à 46. Je l'attends aussi à l'écran pour le lire avec vous. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes, juifs et non-juifs dans le Christ, les justes, lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger ? Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli ? Ou nu et t'avons-nous habillé ? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, Aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous n'êtes pas venu me voir. Vous ne m'avez pas rendu visite, pardon. Je répète le texte d'avant. Verset 44. Ils répondront aussi, Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas servi? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Ne sommes-nous pas sauvés par la grâce? Il se semble qu'on se soit trompé de passage ce matin. Nous sommes plutôt habitués à lire des textes qui nous réchauffent le cœur. On n'est pas au mérite, ici à l'Église. On est de ceux qui croient que le sang du Christ est tout suffisant pour nous accorder la place qu'il nous a préparée, à nous qui croyons en lui. Et c'est vrai, je vous rassure, la grâce prévaut, Dieu merci, on y reviendra. Mais il y a certains textes qui viennent un peu bousculer nos certitudes et qui nous appellent à nous mettre en route. Alors, en route vers qui? Ici, le reproche ou les louanges adressées aux uns et aux autres, aux brebis et aux boucs, la distinction entre les justes et celles et ceux qui héritent de l'enfer se joue à très peu de choses, au fond. Il ne s'agit pas de la foi, bien qu'elle soit sûrement saillante ici et là, ailleurs dans l'Évangile. Il s'agit de mettre en route la foi. Il s'agit d'être conséquent avec notre foi. Il s'agit de prendre soin de ses plus petits. Quels sont-ils? Où se joue la distinction? Ces plus petits, ce sont nos frères et nos sœurs. Celles et ceux qui crient, non pas leur joie ce matin, mais leur désespoir. Les persécutés. 365 millions dans le monde aujourd'hui, ce matin, se rassemblent peut-être dans le secret, peut-être dans la peur, peut-être dans l'expectative d'un assassinat, un de plus, de coups de matraque ou d'une bombe qui leur tombe dessus, ici et là. Pas besoin de donner beaucoup d'exemples pour que ce soit palpitant à votre imagination. Vous le savez bien, on vit dans un monde extrêmement cruel et menacé par la haine des hommes. Et nos frères et sœurs dans le monde sont victimes de ces sursauts de la haine humaine. Et le Christ nous invite à prendre soin de ses plus petits. Parce que lorsque nous le faisons, c'est à lui que nous le rendons. Alors, un jour, une femme demande à son mari, elle fait un mot croisé, puis elle lui demande « Chérie, aide-moi, une puissance mondiale en trois lettres ». Alors, il se gratte la tête, il connaît la géopolitique, il écoute le 1930, enfin, il le regarde plutôt. Chine, non, 5, Inde, ça ne marche pas non plus. Corée du Nord, trop de lettres. États-Unis, on en parle beaucoup, mais là aussi, 9, ça ne va, ça va pas jouer. Il ne trouve pas. Et sa femme lui dit Ego, l'ego, E-G-O, puissance mondiale, number one. Marie n'est pas très fière, mais il sait bien que l'ego joue des coudes, joue parfois dans la cour des grands pour rien, surtout dans le couple. Hein. Là encore, à l'écoute d'un pieux rabbin sur le mariage, il disait au fond, Dieu nous apprend à céder. C'est E-D-E-R dans le couple. Il a créé le couple pour que nous cédions notre ego. Et que nous aimions, que nous apprenions à aimer. Et moi, j'aimerais transformer ce céder en céder, S-A-I-D-E-R, pour transposer la vie du couple à la vie de l'Église ou à la vie des plus petits dont parle Jésus. Et si nous oublions un peu, parce que c'est la triste réalité, vous ne m'en voudrez pas de nous décrire un peu honnêtement, chacun pense d'abord à son bien-être, à sa sécurité. à sa retraite. Paraît-il que c'est devenu le souci numéro un des Suisses, la retraite. Qu'est-ce que je vais toucher à la retraite ? On vit dans le pays le plus riche au monde ou un des pays les mieux nantis sur la planète et on s'inquiète de nos retraites. À dessein, parce que la vie est chère, parce que tout augmente. On vit aussi une forme d'inflation. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de s'inquiéter de sa retraite, surtout à partir de 55 ans, j'imagine. On y réfléchit. Il me reste 10 ans. Que vais-je toucher dans 10 ans ? C'est une vraie question, n'est-ce pas ? Mais on se met en peine pour soi. Et on oublie si facilement le prochain, ces plus petits, qui n'ont rien et qui n'hériteront de rien, et qui, à la retraite, ne toucheront rien non plus. Où est notre cœur ? Et où passerai-je l'éternité si je continue exagérément à m'occuper de moi, en oubliant ceux pour lesquels j'existe sur cette planète ? Alors, difficile d'admettre que nous sommes encore embardouflés de cet égo qui nous trahit parce que dans notre être intérieur, on est très pieux, on est très saint, on a une image parfois illusoire de nos mérites, on fait le bien, on se tient au carré dans la vie de couple, on est des chrétiens exemplaires, ou bien, je me trompe, on fait tout juste, n'est-ce pas ? Pourquoi se faire du mal à réfléchir à ce que je ne fais pas encore assez bien ? C'est cruel comme prédication, je vous ennuie ce matin. Mais il faut l'admettre, c'est pas très naturel de faire ce qui est juste, ou bien. Un petit livre de Paul David Tripp, 40 jours de grâce. Tout ce qu'a écrit ce monsieur, il faut le lire. Allez à la Rosée et puis achetez 40 jours de grâce. Et faites-en la lecture, chaque matin, c'est une bonne série. Il a écrit d'autres livres sur le ministère, Un appel dangereux, c'est pour Mathieu. Et pas que. Non, mais c'est mon fils, alors. Et puis, il a commencé son stage ici, vendredi. Alors, je vous le recommande, je vous le confie. Mais le ministère, c'est pas une tartine de confiture ou une tartine au miel. Hein. C'est parfois un peu plus épais, un peu plus croustillant, un peu plus dur que ça. Je te souhaite beaucoup de bonheur dans l'exercice du ministère, Mathieu. Mais fais la lecture de Paul David Tripp et entends, comprends. Laisse-toi éduquer par cet homme aguerri dans le ministère qui te dit les méandres, les us et coutumes du pasteur dans toutes ses mauvaises habitudes, parce qu'il est extrêmement honnête, et les risques aussi et les périls de vivre le ministère en église. C'est un merveilleux ministère, mais qui demande un ajustement perpétuel, une honnêteté implacable, de l'humilité et beaucoup de force aussi pour continuer à aimer le Seigneur qui nous a appelés et qui forge en nous un caractère à l'image de son Fils, humble et doux et persévérant aussi. Alors, difficile d'admettre, ça vaut pour le pasteur, ça vaut pour toute l'assemblée, que pour moi le premier, que le péché fait de nous, selon Paul David Tripp, que je vais citer un tout petit peu, fait de nous les gouverneurs autoproclamés de nos petits royaumes personnels. Vous voyez ce que je veux dire ? Non ? On va continuer la lecture. Le péché nous centre sur nous-mêmes, et puis il nous pousse à nous considérer juste quand on ne l'est pas, parce qu'on relativise nos petites bêtises. On a quand même compris mieux que le Très-Haut. Nous sommes plus intelligents pour nous-mêmes faire l'évaluation de nos mérites ou de nos déboires, ma foi, parfois. Nous sommes très indulgents avec nous-mêmes, vous le saviez. Oh, parfois nous sommes durs à l'excès, il faudrait cultiver la bienveillance, mais osons regarder l'homme en face de la glace, là, dans le miroir. Nos cœurs sont tortueux par-dessus tout, nous dit le prophète Jérémie, je crois. Le péché, continuons la liste, parce qu'on se fait un peu mal ce matin, mais c'est pour plus de grâce, vous le comprendrez. Et puis c'est pour nous laisser toucher par la parole de Jésus ce matin, Matthieu 25. Le péché suscite en nous la confiance en notre propre sagesse. Je lis Paul David Tripp, comme ça c'est pas moi, c'est lui, vous pouvez en faire la lecture plus tard. Le péché nous donne l'envie d'écrire nos propres règles. Le péché nous rend résistants à la critique et au changement. Le péché fait errer nos regards et nos cœurs. Le péché nous fait brûler d'envie pour les biens matériels plutôt que spirituels. Le péché nous fait oublier Dieu. Le péché nous pousse à enfreindre les sages limites que Dieu a fixées à nos pensées, nos désirs, nos paroles et nos actions. Voilà ce qui est naturel pour nous autres pécheurs, parce que nous le resterons, vous le saviez, jusqu'à la fin. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. et de la repentance. Je ne sais pas pourquoi je cite les Juifs qui m'émerveillent, mais encore un rabbin qui appelle Israël à faire tshuva, retour au Seigneur. Parce que comme ils sont tellement persuadés que c'est la fin des temps, ben ils se trompent, hein, sûrement. Ou ils se trompent toujours, en tout cas lui en particulier, mais j'aime l'écouter parce qu'il est un peu fou, il est génial. Et il dit toujours « Tshuva, revenez, repentance !» Mais si c'est vrai pour le peuple juif, c'est vrai pour nous aussi, n'est-ce pas? On ne peut pas se prévaloir de connaître le Messie sans lui obéir. Autrement, nous serons traités comme les boucs à sa gauche. Si nous sommes les vrais disciples du Christ, alors nous mettons en pratique sa parole. Nous faisons la parole. Frère André aimait dire « Do the word », faites la parole. J'ai écouté plusieurs de ses prédications en Hollande, parce que voilà, ils en ont fait un musée, et puis on peut écouter le frère André comme s'il nous prêchait, c'est très intéressant. Il aimait la parole, il la connaissait, mais il disait « Do not read only the word, do the word, faites la parole ». Obéissez au fond à la parole, faites ce qu'elle exige de vous. Alors, pourquoi les chrétiens sont-ils persécutés? Et pourquoi, en comparaison, et toute comparaison est à garder dans l'humilité parce qu'elles ne sont pas nécessairement justes, mais pourquoi, à comparaison, toute proportion gardée, sommes-nous aussi ennuyés par le péché? C'est notre persécution à nous, hein, l'ego. Résister à l'homme intérieur, à ce péché qui cherche encore à se rendre maître de nous. Tout est permis, mais tout n'est pas utile, dit Paul. Il ne faut pas se laisser asservir par quoi que ce soit. Ça, c'est notre tentation. L'argent, le pouvoir, la gloire. Plus, plus, plus. Pour moi, 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 je. Me, myself and I. Très bon film, Christian Clavier. Me, myself and I. Un titre en anglais. C'est un film français, très drôle. Un médecin dentiste qui cherche à jouir de son temps libre. Il en a si peu qu'il en rêve, mais rien ne va comme prévu. Il n'arrive pas à jouir d'une seule minute de sa longue journée parce qu'il est interrompu par des choses et par sa femme en particulier. Alors son ego est mis à rude épreuve. Avançons, les chrétiens persécutés vraiment, parce que nous ne le sommes pas, sinon par notre propre chair et notre besoin de transformation dans le cœur encore et toujours. Mais ce n'est pas de la persécution, ça s'appelle la sanctification. Les chrétiens qui sont persécutés, pourquoi le sont-ils? Pour trois raisons en particulier. Et vous verrez, ça rejoint quand même mes propos de tout à l'heure. D'abord, leur radicalité. On pourrait dire leur absolutisme. Ils croient que Jésus est Seigneur, comme vous et moi. Et ils croient qu'ils ont un seul maître, celui qui a dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie, le chemin, la vérité et la vie ». Leur foi est absolue. Ils ont renoncé à tout pour suivre le Maître, à leur ancienne religion, à leurs amis, à leur communauté, à celles et ceux qu'ils aimaient parfois. Ils ont renoncé même à leur vie ou à leur liberté pour suivre ce Messie. Ces chrétiens enseignent la Bible et ils la mettent en pratique. Ils y croient dur et ferme. Ils do the word. Ils font la parole. Ils l'écrivent avec leur propre vie et ça leur coûte très cher. Et puis ils sont victimes, évidemment, de la haine que le monde porte à l'Église du Christ, à sa révélation dans le Christ. Il y a un vrai combat spirituel entre le monde et le ressuscité, et ils en font les frais, là où ils sont en minorité. Alors Jésus lui-même a vécu la persécution. Il est mort, et nous célébrerons la scène tout à l'heure, il est mort à la croix. Il a dû mourir à cause de ses propos absolutistes. Il a dû mourir à cause de ses faits et gestes. Pensez à ce qui a précipité sa fin lorsqu'il est entré dans le temple, a renversé les tables, chassé les marchands, les vendeurs, de tout et de rien, de briques et de brocs. Bon, une économie nécessaire à la fonction du temple, mais enfin Jésus a réclamé le temple pour la prière, pour Dieu son Père. Son absolutisme et le fait qu'il obéisse à son Père et à sa parole lui a valu la mort à la croix. Mais à la croix, il a vaincu le péché. Il a vaincu notre propension au mal et au péché, à l'égocentrisme aujourd'hui, pourrait-on dire. Il est ressuscité, il vit en nous. Voilà l'espérance de la gloire. Voilà la raison de nous réjouir. Ce n'est pas que je sois encore promu à pécher ici et là et à mon repentir jusqu'à la fin. C'est que l'Esprit Saint habite en moi. Et c'est que par l'Esprit Saint, j'ai une autre espérance, c'est ressembler à mon Maître. Ça n'est pas par mes efforts, ça n'est pas par mes mérites, c'est à cause de celui qui vit en moi. Le Christ nous a laissé sa puissance, nous l'avons chanté ce matin. Laetitia nous a enjoint à laisser nos fardeaux, à crier peut-être au Seigneur ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, la puissance de Dieu vit en nous. Le Saint-Esprit nous aide, nous accompagne. Il le fait aujourd'hui, il le fera demain. Le Saint-Esprit nous console, le Saint-Esprit nous guérit. Il nous permet d'être libres du péché, de garder la tête haute face au mal et de renoncer à nous-mêmes dans ce monde épris de l'idolâtrie, de la contemplation, de ce que les autres possèdent, de ce que les autres font miroiter sur les réseaux sociaux ou sur Internet, et l'idolâtrie de s'adorer un peu soi-même en ayant toujours à cœur de satisfaire plus ou moins largement et libéralement notre ego. Dieu nous en délivre ! Puisse-t-il nous en pardonner aussi alors que nous prendrons le pain et le vin tout à l'heure. Nous voulons avoir un cœur pour les plus petits. Nous voulons avoir un cœur pour les perdus. Nous voulons obéir à la parole du Seigneur selon Matthieu 25. Et le Saint-Esprit nous enjoint à oser le défi d'être chrétien, comme les persécutés, sans l'être pour autant, des chrétiens radicaux, absolutistes, des chrétiens qui aiment la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, des chrétiens qui, malmenés peut-être, ça et là dans ce monde, osent le défi d'être différents. Des chrétiens qui osent défier même la société civile ou le voisin, le prochain, avec une conduite exemplaire, celle que produit l'Esprit en nous, de l'amour, de la tendresse. Je crois beaucoup à la tendresse. Alors que je suis quelqu'un de charismatique et de fort, un leader parfois un peu musclé, je crois que Dieu transforme mon cœur pour être quelqu'un qui sait manier la tendresse plus que le verbe, la charité plus que le reste. Pour autant, l'amour n'est pas mou, n'est-ce pas ? Jésus n'était pas un tendre au sens où on aurait pu dire de lui qu'il était mou, sans colonne vertébrale, sans muscles, sans savoir comment dire les choses à ceux qui l'entouraient. Et nous devons imiter son modèle, ne pas être des mous doux et humbles, oui, mais forts de caractère, nous dit Pierre dans son épître, et oser défier cette génération dont la tolérance est la seule vertu. Et la tolérance est une valeur molle, une valeur qu'il faudrait peut-être défier, parce qu'elle nous rend silencieux, et elle excuse notre inaction, la tolérance. Parce que la tolérance, c'est renverser en un pouvoir du respect qui nous inhibe, qui nous restreint, qui nous met sous la retenue. On ne sait plus dire quoi à qui. On a peur de dire les choses. Tellement respectueux qu'on est entré dans une forme de culture de l'offense. Peut-être vais-je offenser quelqu'un ? Oh, grand scandale ! Il faut que notre foi soit sans peur, qu'elle soit pleine d'ardeur et d'adresse, avec tendresse. Je crois que l'Église doit se lever pour faire une différence dans ce monde, ici, dans ce quartier, ici, à Cossonay, parce que c'est notre mandat, n'est-ce pas ? Annoncer la bonne nouvelle, comme prendre soin du pauvre ou et du plus petit d'entre nos frères et sœurs. Alors, pour faire le lien avec Portes Ouvertes, revenons à Matthieu 25, en citant Hébreux 13, « Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous y étiez vous-même. » Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, pour prendre soin de leur peine. C'est à cela que le Seigneur fera la distinction entre ceux qui sont justes et ceux qui sont injustes, n'est-ce pas, selon Matthieu 25. C'est multifactoriel, il y aurait sûrement d'autres considérations à mettre sur la table ce matin, mais laissons l'épée de l'Esprit, sa parole, être un peu pertinente et nous toucher à cœur. Que fais-je de ma vie ? Suis-je au service du prochain ou suis-je au service de mon ego ? Nous sommes appelés à la solidarité. Je vais conclure avec ces mots. Nous sommes appelés à la solidarité entre nous, bien sûr, solidaires les uns des autres. Et c'est la vertu d'une cohésion forte en communauté. Une communauté à cohésion forte est une communauté solidaire. On s'occupe les uns des autres, on se soucie vraiment les uns des autres. On s'aime assez pour mettre notre amour en action. Do the word, faire la parole. La solidarité. Et la solidarité, elle vaut pour nos frères et sœurs, les plus petits, celles et ceux qui, à cause de leur foi, sont persécutés dans le monde. Et j'aimerais ouvrir la page Portes Ouvertes et vous entraîner avec moi en Afrique subsaharienne et au Burkina Faso. Je le ferai très courtement parce que c'est une vidéo de 9 minutes qui le fera mieux que moi. Très belle vidéo qui brossera le portrait de ce qui s'y passe. Mais quand même, petite introduction, Burkina Faso, il y a quelques années, on n'en parlait pas. Je suis venu il y a 2 ans ici à Cossonay, j'en aurais même pas parlé. Mais les choses vont de mal en pis en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire cette Afrique qui va du Mali jusqu'à la Corne de l'Afrique, l'Éthiopie entre autres. Toute cette bande centrale de l'Afrique, en deçà du Sahara, est malmenée par des mouvances djihadistes qui sèment la panique. Et le Burkina était le pays des hommes intègres, un pays très pacifique, où les grandes religions vivaient en paix, paix sociale, paix religieuse. Et voilà maintenant que 40% du territoire est en main des djihadistes, la mouvance de Boko Haram qui fait des terreurs aux Nigériens en particulier. Vous savez que les violences commises contre les chrétiens, pour 90% d'entre elles, ont lieu chaque année au Nigeria, dans le nord du pays. C'est là qu'on coupe les têtes, c'est là qu'on brûle et incendie les églises. La Corée du Nord reste pire à bien des égards, mais le Nigeria fait bonne figure. Et ces djihadistes parcourent toute la ceinture centrale de l'Afrique jusqu'au Burkina, où le gouvernement est impuissant, visiblement, pour freiner ces mouvements. Et les chrétiens sont chassés, déplacés, on les compte par millions désormais, ces chrétiens qui manquent de tout. Vous le verrez dans la vidéo tout à l'heure, je ne veux pas en dire davantage. C'est moi qui ai la télécommande pour une fois, alors je suis maître de mon PowerPoint, c'est fantastique ça. Merci, Cossonay. Ce n'est pas toujours le cas. Alors, petit rappel de Portes Ouvertes, et puis suite à cette très courte vidéo d'une minute cinquante, 9 minutes de vidéo sur le Burkina Faso. Ça va? Et puis ensuite, on termine là. Je laisse la place à Rose Blanche, parce que vous aurez des témoignages aussi de Burkinabé et du Burkina Faso avant le temps de prière et de Sainte-Cène. Merci de votre patience.
Quel est le prix à payer pour suivre Jésus? Perdre sa sécurité.
Faut que je revienne en arrière? Non, je laisse la technique faire.
Quel est le prix à payer pour suivre Jésus? Perdre sa sécurité, son travail, sa famille, ses amis? Ils sont des centaines de millions de chrétiens dans des pays comme la Corée du Nord, l'Afghanistan, le Nigeria, l'Inde, l'Irak et la Chine à se voir refuser l'accès à l'emploi, à l'éducation. Ils sont arrêtés, attaqués et même tués pour avoir voulu suivre Jésus. Depuis près de 70 ans, Portes Ouvertes aide les chrétiens à rester attachés à Jésus partout dans le monde, quel qu'en soit le prix.
God spoke to me again through his word. Awake, strengthen what remains, which is at the point of death. Then I understood I have to go to the Christians.
Premier voyage de Frère André derrière le rideau de fer, Portes Ouvertes s'est développé dans plus de 70 pays. Quand vous vous joignez à nous, vos dons et vos prières aident l'Église persécutée à survivre au travers de formations bibliques, de secours d'urgence et de projets de développement. Priez avec des chrétiens secrets au Moyen-Orient. Livrez un kit de survie à un chrétien nord-coréen. Apportez des Bibles à une église souterraine en Chine. Notre but est d'aider les chrétiens à tenir ferme face à la persécution pour qu'ils continuent d'être une lumière pour le Christ. Nous sommes un seul corps. Quand il souffre, nous souffrons tous. Si l'Église n'aide pas l'Église, qui le fera? Marchez main dans la main avec les chrétiens persécutés pour surmonter tout ce qui nous empêche d'avancer. Et soyez édifiés par ceux qui sont prêts à tout perdre pour gagner Christ. Aujourd'hui, aiderez-vous les chrétiens à suivre Jésus, quel qu'en soit le prix?
Si l'Église n'aide pas l'Église, qui le fera? Je passe pour vous emmener à la vidéo suivante, le Burkina Faso, en 9 minutes, et nous aurons des témoignages ensuite.
On avait entendu parler des attaques terroristes qui se rapprochaient de plus en plus de notre zone. Et un soir, ils sont venus pour nous. La première fois, les terroristes sont venus chercher les hommes pour les tuer, mais nous avons réussi à nous enfuir. La deuxième fois, les terroristes ont violé toutes les femmes dans leur maison. Ils ont pillé tout ce qu'ils pouvaient et sont partis. La troisième fois, les terroristes ont mis le feu. Aux granges, aux échoppes, aux maisons, à tout. Nous avons fui pour sauver nos vies. Ne sachant pas où aller, nous avons cherché un endroit où nous réfugier et continuer à servir le Seigneur.
Le pasteur Sauré est l'un des milliers de chrétiens qui ont été déplacés en raison des violences djihadistes. On appelle déplacés internes des gens réfugiés dans leur propre pays. Ils fuient les raids des extrémistes islamiques. Même si ces raids sont influencés par un aspect socio-économique, c'est bien la religion qui reste le principal moteur de cette violence, qui provoque le déplacement de millions de personnes. Même les musulmans modérés ne sont pas à l'abri des djihadistes.
Quand les terroristes viennent dans les églises et qu'ils trouvent des chrétiens en train de prier, ils leur disent que le temps du christianisme est terminé et qu'ils doivent se tourner vers l'islam. Ils ordonnent aux chrétiens de cesser de célébrer le culte. Après cet avertissement, s'ils reviennent plus tard et vous trouvent dans l'église, ils vous tuent.
La vie du pasteur Sauré a changé en un instant. Dans son village, il dirigeait une église florissante et sa famille avait une maison avec des chambres et des lits. L'eau était facile d'accès. Ils étaient en mesure de cultiver et de nourrir tout le monde. Les enfants pouvaient aller à l'école. Mais maintenant, leur vie est bouleversée. Ils ont été obligés de trouver refuge dans ce lieu isolé, car la première ville où ils se sont rendus était déjà surpeuplée de personnes déplacées.
Il nous a fallu 4 jours pour arriver jusqu'à cet endroit. Les femmes et les enfants ont dû passer la nuit sur le bord de la route. Il n'y avait rien quand nous sommes arrivés ici. Mais grâce à Dieu, nous avons pu construire ces abris. Au total, 13 personnes vivent dans cet abri.
Quand ils ont fui, l'épouse de Sauré, Teresa, était enceinte de leur plus jeune fille, Esther. Et Wenkun, leur fils, avait 4 ans. Mais leur famille, telle qu'elle se présente aujourd'hui, est bien plus grande que 4 personnes. Sauré et Teresa s'occupent de 15 autres chrétiens, pour la plupart des jeunes enfants et des adolescentes, orphelins ou séparés de leurs parents.
4 personnes vivent dans cette pièce. Oui, 4. 3 enfants dorment ici et 3 autres dorment ici. Nous n'avons pas assez d'espace, mais nous remercions Dieu pour ce que nous avons. Pendant la saison sèche, il fait trop chaud dans l'abri pendant la journée. Nous devons rester à l'extérieur jusqu'au soir. Pendant la saison des pluies, nous ne pouvons pas contrôler l'eau de pluie. Nous n'avons pas de système qui pourrait dévier l'eau et elle s'écoule dans les abris. Le sol reste humide après chaque pluie. Nous dormons sur le sol mouillé avec les enfants. On sait que cela peut entraîner des maladies, mais nous n'avons pas d'autre option. Ma femme souffre beaucoup, car elle doit cuisiner à l'extérieur, en plein soleil.
Je cuisine pour près de 20 personnes. Cuisiner pour les gens n'est pas du tout un fardeau. Je considère que c'est une œuvre pour Dieu. Ils sont le peuple de Dieu et ont été involontairement déplacés dans cet endroit. Je cuisine pour eux avec joie, même si nos conditions de vie sont insuffisantes.
Portes Ouvertes m'a aidé avec des semences et des engrais. Je tiens dans mes mains le maïs que nous avons cultivé grâce à l'aide de votre association. Nous le consommons depuis 3 mois maintenant. Non seulement l'association nous aide, mais votre équipe nous rend visite régulièrement. Nous voyons ainsi qu'ils partagent nos peines et qu'ils portent nos fardeaux devant Dieu.
When I'm done,
Ma plus grande inquiétude concernait la foi de mes paroissiens. Je me demandais s'ils garderaient confiance en Jésus après toutes ces épreuves. J'ai demandé à Dieu de les aider à ne jamais s'éloigner de Christ où qu'ils aillent. En ce qui me concerne, quelles que soient les difficultés, jamais je ne m'éloignerai de Christ. Je crois aussi que même si nous sommes déplacés, Jésus n'est pas et ne sera jamais déplacé de nos vies. Il est toujours avec nous. Seigneur Dieu, au nom de Jésus, je remets toutes les personnes déplacées du Burkina Faso entre tes mains. Dieu de la vie, sois avec elles et réconforte-les. J'intercède pour les personnes déplacées dans le monde entier. Que ta main miséricordieuse les touche et renforce leur foi. Je prie aussi pour cette association qui aide les chrétiens persécutés à travers le monde. Que Dieu soit glorifié dans tout ce qu'ils font. Au nom de Jésus, amen. Ce qui m'aide à garder la foi, c'est cette vérité. Même si je souffre physiquement, mon esprit, qui est en Christ, n'est pas affecté par la souffrance physique. Le Dieu Tout-Puissant est avec moi. Il m'a béni quand je vivais dans mon village, il était avec moi dans les bons moments, et il est toujours avec moi dans ces épreuves. Tous les gens qui survivent ici avec moi ont la même foi. Ils ne se plaignent jamais de notre situation. Une autre chose qui renforce ma foi, c'est que malgré notre condition misérable ici, Jésus continue d'amener de nouvelles personnes au salut. Cela me montre qu'il est avec nous et qu'il est au contrôle. Quand je lis la Bible, je vois que tous les guerriers ont rencontré des difficultés dans leur vie. Aujourd'hui, c'est mon tour. Et une vérité importante sur la souffrance est que la souffrance n'est jamais éternelle. Mais Jésus est éternel.
Nos partenaires viennent en aide aux déplacés du Burkina Faso, ainsi que dans les autres pays d'Afrique subsaharienne où les chrétiens sont chassés de chez eux en raison de leur foi. Mais l'ampleur des besoins nous dépasse. À l'heure actuelle, en Afrique, c'est 16,2 millions de chrétiens qui ont été déplacés de force, car beaucoup d'entre eux sont ciblés par des persécutions. Mais trop peu de monde en parle. Souvent, dans nos églises, nous ne sommes même pas au courant. C'est pour cela que nous avons lancé la campagne Afrique unie contre la violence. Partagez l'information, abonnez-vous à nos réseaux, devenez une antenne dans votre église. Nous, on est là pour transmettre les informations du terrain, mais c'est à vous de les relayer. Merci à tous ceux qui s'engagent déjà à nos côtés. Ce qu'on désire, c'est que toujours plus de personnes se lèvent en prière pour nos frères et sœurs qui vivent ce que vit le pasteur Souré.
Chrétiens du monde entier, je voudrais vous demander de prier. Premièrement, pour tous les chrétiens du Burkina Faso, notamment ceux qui sont déplacés et qui vivent avec moi, afin qu'ils restent fermes dans leur foi. Deuxièmement, priez pour que je garde une foi solide et que je persévère dans la mission que Dieu m'a confiée. Priez aussi pour que nous ayons un endroit où moi et ma famille pourrons vivre et suivre le Christ tous les jours de notre vie.
Je vous laisse écouter ce qui résonne un petit moment. Alors, bonjour à tous. Voilà, je suis une partie du Burkina Faso chez vous. Je voudrais dire que c'est vraiment important de prier pour le Burkina, pour les chrétiens persécutés. Ma famille de sang n'est pas touchée, mais ma famille en Jésus est beaucoup touchée par cette situation. J'ai été très touchée une ou deux fois pendant le culte. Anne-France m'a des fois vue pas bien, puis elle est venue vers moi. Elle a dit, nous prions pour le Burkina Faso. Nous prions pour tous ceux qui souffrent. Et je repartais du culte heureuse parce que Dieu voit la souffrance de son peuple. Et des gens prient pour ces chrétiens qui souffrent. Et il y a des millions d'enfants qui sont déscolarisés. Moi-même, j'ai dû arrêter des projets parce que c'était plus possible de continuer à cause des persécutions, des attaques djihadistes. Et il y a un jeune pasteur, il y a 2 ans, qui a été assassiné dans son église par les djihadistes. Alors, c'est très important de soutenir ce pays et tous les autres pays, les persécutés dans la prière. Voilà. Et j'ai aussi ma sœur et son mari pasteur qui ont dû mettre en place un quartier libre pour accueillir ses enfants une fois par semaine pour les faire oublier, ne serait-ce qu'un petit moment, leurs souffrances et tout ce qu'ils vivent dans la rue. Ils ont même ouvert l'église pour que certains enfants puissent venir dormir, parce qu'ils dorment dehors des fois. Alors, merci beaucoup pour vos prières.
Merci, Wenkuni. On va prier tout à l'heure dans les petits groupes. Mais on peut se souvenir de Wenkuni et de tout son peuple. Un autre lien que nous avons eu, plusieurs fois dans nos cultes, nous avons reçu un couple qui travaille dans les alentours de Ouagadougou, Stéphane et Myriam Gigaudet. Ils sont envoyés par nos églises. Et je vous lis quelques lignes. On a reçu des nouvelles il y a un mois, je crois, à peu près. Plusieurs années, aider des jeunes femmes en danger de prostitution à trouver un accueil, un toit, de la nourriture. Elles ont pu accoucher dans de bonnes conditions, dans des structures médicalisées, et les enfants ont reçu tous les soins de base, les vaccinations, les suivis médicaux. Le ministère fait les démarches souvent très compliquées pour faire rétablir les actes de naissance qui sont indispensables si on veut avoir une vie normale et pouvoir être scolarisé. Dans ce lieu, les femmes apprennent la cuisine locale, adoptent de bonnes habitudes pour une vie bien intégrée. Elles bénéficient aussi d'opportunités d'apprentissage scolaire, sociaux et pratiques. Dans la situation actuelle, ils demandent vraiment notre soutien spirituel et financier. Tout est plus cher et s'ils n'arrivent pas à équilibrer la situation financière, ils vont devoir fermer le centre. Alors là, il y a un appel particulier de soutien spirituel et financier. Alors, en écho à ce qu'on a entendu ce matin, je vous invite à vous mettre par petits groupes, disons autour de 4 personnes, pas trop gros, pour intercéder. Priez pour ce qu'on a entendu, priez pour le ministère de la sœur et du beau-frère de Wenkuni, priez pour le ministère de Stéphane et Myriam, et ce que le Seigneur nous met à cœur. Alors, Marc nous a préparé quelques sujets qui peuvent nous inspirer. Et ensuite, nous prendrons la Sainte Cène, mais nous la prendrons aussi dans les petits groupes. Alors, je vous dirai autant voulu, mais maintenant, prenons ce temps en petits groupes pour prier.